Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'empreinte de l'histoire. Après la charte de fondation, le rituel de fondation d'Aigues-Mortes, nous allons voir maintenant la construction des édifices, églises, maisons communes, halles, remparts et bien sûr les maisons privées des habitants. Or, cela peut surprendre, mais les remparts d'Aigues-Mortes, si connus et si emblématiques de la ville aujourd'hui, ne furent pas construits en premier. En effet, le premier bâtiment construit de la ville fut l'église dite Notre-Dame des Sablons. Cela ne doit pas surprendre dans une création urbaine décidée par un roi très pieux. D'autant que cette création a pour vocation également de permettre l'embarquement pour les croisades, et donc la présence d'une église pour permettre aux fidèles d'assister aux offices a dû forcément s'imposer dans l'esprit du roi. Cette église était d'ailleurs desservie dès le début par les moines de l'abbaye de Psalmodie, vous savez, ceux qui ont d'ailleurs vendu, échangé ces terres avec le roi de France. L'église est achevée vers 1260. Sa forme rectangulaire a pour objectif de s'intégrer parfaitement dans le cadastre voulu par le roi. Elle s'ouvre d'ailleurs sur la place qui lui tient lieu de parvis, puis assez vite d'ailleurs sur cette place, vers l'angle sud-est de la place, se dresse rapidement, mais on ne connaît pas exactement la date, la maison consulaire. Concernant les maisons d'habitation, chaque habitant disposait d'un lot égal, lui permettant de disposer d'une maison avec façade sur rue et jardin à l'arrière. L'occupation du site commence d'ailleurs autour de la place et dans la partie ouest de la ville. Les sources nous renseignent sur la population d'origine d'Aigues-Mortes. Il y a des individus venus des villages proches, cela peut paraître évident, mais également d'un peu plus loin, des Cévenols, des Agatois, des Catalans, quelques Provençaux et un fort contingent d'Italiens, au premier rang desquels les Génois et les Lombards. Ce qui est normal, même si cela peut surprendre, compte tenu de leur métier de commerçant, de banquier et surtout de navigateur, des activités nécessaires au développement d'un port voulu par le roi. Avec l'église des Sablons est lancée la construction de la tour Donjon, dite tour de Constance. Sa construction commence en 1242 et se termine vers 1254. C'est une véritable tour donjon d'architecture philippienne, une architecture qui tire son nom du roi Philippe Auguste, qui initia justement ce type de fortification avec le château du Louvre. Si vous allez au musée du Louvre, vous pouvez d'ailleurs voir les fondations de ce type de fortification au sous-sol du musée. La tour de Constance est haute de 30 mètres et a un diamètre de 22 mètres environ. Son poids considérable repose sur un réseau de pilotis qui permet la stabilisation d'un édifice très lourd sur un sol meuble et sablonneux. La tour possède trois niveaux. Tout d'abord un cul-de-basse fosse qui servit de lieu de stockage et de prison, puis une salle basse qui est en fait une salle surélevée et qui permettait l'accès au château depuis la campagne par deux ponts-levis aujourd'hui disparus. Enfin, la salle haute, occupée par le châtelain de la tour et la garnison. Sa construction a bien évidemment une vocation défensive, mais également une affirmation du pouvoir royal, car le choix de l'architecture philippienne répond également à une affirmation culturelle, venue d'Île-de-France. Enfin, il faut ajouter à cette tour-donjon un château, qui sera détruit pendant les guerres de Cent Ans. Mais pour la protection de la ville, le système défensif de la tour Constance ne suffisait pas. Louis IX décida donc de doter la ville de remparts, autant pour la protéger des attaques ennemies, des animaux sauvages, que du vent qui soufflait avec force dans les rues de la ville. D'autant que ces dernières étaient rectilignes et ce qui, autre désagrément, apportait du sable dans les rues. Malheureusement, Louis IX n'a pas pu voir le début des travaux puisqu'il meurt en croisade à Tunis en 1270 et les travaux de l'enceinte débutent seulement deux ans après la mort du roi. Son successeur, Philippe III le Hardi, reprend la tâche et confie d'ailleurs cette tâche de construire les remparts à un Génois, Guillaume de Boccanegra. Mais là aussi, manque de chance, Boccanegra meurt en 1274 alors que les travaux sont à peine commencés. En 1289, un rapport adressé au sénéchal de Beaucaire nous révèle qu'il reste environ 650 mètres de remparts à construire. C'est donc à l'extrême fin du XIIIe ou au début du XIVe siècle que se terminent les travaux voulus par Louis IX. L'enceinte s'étend sur une longueur de 1640 mètres. Les courtines, c'est-à-dire les remparts, s'élèvent à 11 mètres de haut et ont une épaisseur d'environ 3 mètres. Les différents ouvrages qui s'égrènent tout au long de ce périmètre, les tours, les grandes portes et les petites portes, avaient donc une vocation défensive. À cette À ce périmètre architectural, il faut aussi ajouter un élément isolé, la tour Carbonnière, qui est placée à quelques kilomètres, à cheval d'ailleurs sur la voie terrestre qui relie la ville au nord, et qui se place comme un poste avancé, défendant autant l'accès à Aigues-Mortes qu'un endroit pour prélever des taxes pour les marchands. Ainsi, pendant près de 2 siècles, Aigues-Mortes est le symbole de la royauté française et l'unique port du royaume en Méditerranée.
Restez avec nous sur Radio Alliance Plus.